amour dans nos vies. Lorsque nous voyons Jésus, Seigneur, tes œuvres, mon Dieu, oh Jésus, Seigneur, mon roi insondable, mon roi, dans nos vies, Jésus, nous pouvons que témoigner ce matin, mon roi, ton amour, Jésus, qu'est-ce que je peux donner, mon roi, Jésus, en contrepartie, mon roi, oh Jésus, pour témoigner l'amour de Dieu. Je n'ai rien, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, avec mes faibles mots, oh Jésus, Seigneur, avec ton faible mot, Jésus, que nous sommes venus, mon roi, te dire, Jésus, que nous t'aimons, Seigneur, que nous t'aimons, mon roi. Nous n'avons pas, mon roi, nous n'avons pas rien de mon roi, Jésus, rien d'autre, mon Dieu, pour donner en contrepartie. Ton amour est immense dans nos vies. Oh Jésus, ce que tu as réalisé, lève mon roi, Jésus, que tu as accompli de la croix. Personne d'autre, mon Dieu, oh Jésus, pouvait accepter, oh mon roi, de mourir à cause de moi, à cause de nos péchés, si ce n'est pas toi, mon roi. Voilà pourquoi ce matin, ensemble avec ton peuple, nous sommes venus t'adorer, t'élever, t'exalter, oh, te célébrer encore. Que ton nom soit béni à jamais, le Dieu puissant, le Dieu capable de tout, le Dieu qui ne cesse de nous étonner, mon roi, par sa façon de faire. Que ton nom soit béni à jamais, ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons, car tu es le seul. Le seul, le seul, le seul Dieu, le seul maître, le seul sauveur, le seul Jésus qui mérite les cris de nos cœurs, qui mérite la reconnaissance de nos vies. À cause de ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Si nous pouvons nous tenir debout, pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ, jour après jour, aujourd'hui notre dernier dimanche de cette année. Le Seigneur nous a fait tant du bien. Le Seigneur nous a bénis en scellés. Le Seigneur nous a arrosés. Le Seigneur nous a visités. Le Seigneur nous a guéris. Le Seigneur a visité nos familles, nos enfants, a donné des diplômes, a donné des travaux. Le Seigneur a donné des maternités, des mariages en scellés. Le Seigneur a réalisé des choses que les hommes ne pouvaient même pas imaginer, ne pouvaient même pas, mon roi, comprendre. Comment le Seigneur peut le réaliser ainsi? Que son nom soit béni à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous a donnée de nous tenir encore devant de vous. Et nous disons merci à l'homme de Dieu qui nous a fait grâce ce matin d'être là. Vous allez un peu me supporter. La santé nous dérange un peu. La grippe, la rhume, l'angine, tout cela nous dérange. Donc, supportez-nous un peu. Que le Seigneur nous donne un peu. Que le Seigneur nous donne la force de nous tenir enscellés par sa grâce. Je bénis la présence de chacun de nous. Que le Seigneur soit béni pour ta présence enscellée. Et nous saluons aussi nos amis qui sont en ligne en train de participer ou de communier avec nous dans ces deuxièmes services au Centre évangélique francophone, la Borne Matadi, dimanche 29 décembre 2024. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons partager une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est vrai que ça, c'est la même pensée, je peux dire, qui a été dit au premier culte. Et le Seigneur veut ajouter ce qu'il veut ajouter au second service. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13. Nous lirons du 4e au 14e verset. Il y aura d'autres textes qui vont suivre au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec notre message. 1 Samuel, chapitre 13, du 4e au 14e verset. Si nous sommes là, lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Tout Israël entendit que l'on disait « Saoul a bâti les postes des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saoul à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1 000 chars et 6 000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme les sables qui y est sur les bords de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près et se cachèrent dans des cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y avait eu aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gad et des Galades. Saoul était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendirent 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul lui dit, « Amène-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saoul sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saoul répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient ensemble en Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel, car c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est le sort d'un homme qui ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a une volonté que tout homme qui marche ou qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ doit accomplir dans sa vie. Si hier, je vivais avant de connaître Christ, je vivais par rapport à ma propre volonté, mais aujourd'hui, Christ m'a choisi, Christ m'a sauvé, je dois vivre maintenant selon sa volonté. Jésus, aide-nous ce matin de faire que ta volonté, d'observer que ta volonté, afin que nous ne puissions pas risquer à ce niveau de perdre même ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Que ton nom soit béni à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Si nous pouvons acclamer la parole du Seigneur, la parole de Dieu nous donne la vie. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Le thème que nous voulons partager ce matin, nous l'avons intitulé ainsi, « Être un choix de Dieu, 2 points, c'est une mission. » Être un choix de Dieu, 2 points, c'est une mission. Dans le fait que tu sois sauvé, aujourd'hui nous nous réjouissons en disant « Je suis sauvé, le Seigneur m'a choisi, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a racheté, oui ». C'est bien, mais nous devons le savoir, c'est une mission, une responsabilité, étant qu'enfant de Dieu. Si le Seigneur te sauve, une fois sauvé, tu pars au ciel comme fut le cas des uns ou des autres, c'est une bonne chose. Mais si le Seigneur te laisse encore de vivre ici sur la terre, sache-le qu'il t'a laissé pour accomplir une mission. Il t'a laissé pour accomplir une mission, et non selon ta volonté, mais selon sa volonté. Si nous voulons définir rapidement la mission, nous devons le savoir, la mission c'est une charge qui est donnée à quelqu'un pour aller accomplir quelque chose. D'une manière brève, pour nous amener à comprendre un peu comment nous allons évoluer ce matin, la mission c'est une charge qui est donnée à quelqu'un, à une personne, pour aller accomplir quelque chose. Donc cette définition peut s'appliquer dans tous les secteurs de la vie. Car toute personne qui va en mission, on lui confie une charge, une responsabilité pour aller accomplir là où il va. Aucune personne ne peut nous dire ce matin, moi je pars en mission pour aller faire rien. Non, ça n'existe pas. Au moins que tu sois un Congolais, le Congolais qui crée des missions inutilement. Il sait qu'il part faire rien, mais pour avoir seulement des moyens, les frais des missions, il crée une mission là. Mais logiquement parlant, lorsqu'une personne dit « je pars en mission », on comprend directement qu'il a une charge ou il a une responsabilité, il est parti accomplir là où il est parti exercer sa mission. Aujourd'hui, nous voyons nos frères et sœurs qui sont en train de diriger nos extensions dans la ville, tout comme dans dehors de la ville, nous les appelons des missionnaires. Pourquoi nous les appelons les missionnaires? Parce que l'Église a confié à eux une charge ou une responsabilité pour qu'eux aussi puissent accomplir ou réaliser cette responsabilité de l'autre côté. Une personne qui a été formée, encadrée en scellé, arrivé à un certain moment, l'Église lui dit, mon frère, tu vois ce qui se passe en scellé, l'organisation des cultes, gagner des âmes, enseigner, préparer l'Église pour le retour du Christ, c'est tout ce qui se passe en scellé, tu vois, nous t'envoyons en mission pour aller pas faire autre chose, pour aller réaliser, accomplir tout ce que tu vois que nous sommes en train de faire en scellé. Raison pour laquelle nous les appelons des missionnaires, car il y a des frères, des sœurs qui quittent ma tête pour aller en scellé, l'ouosi, aucun grand jour, le passé les a présentés comme des missionnaires, non, parce qu'il est parti faire autre chose. Mais celui qui a reçu un mandat, celui qui a reçu une charge, une responsabilité pour aller accomplir de l'autre côté, c'est lui qu'on appelle missionnaire ou il est parti faire la mission. Comme la mission s'est définie par une charge donnée à quelqu'un pour aller accomplir quelque chose, donc une personne qui est en mission ne fait pas les choses selon sa volonté, mais il fait les choses selon la volonté de celui qui l'a envoyé. Une personne qui est partie faire ou exercer la mission, il ne fera pas des choses là-bas selon sa volonté, non. Il fera des choses selon la personne qui l'a envoyé. Si c'est l'Église, tu fais des choses selon ce que l'Église t'a demandé. Si c'est une entreprise, ton directeur, tu fais des choses là-bas selon ce que ton directeur t'avait recommandé de faire là-bas. C'est ça, un missionnaire ne fait pas des choses selon lui, mais il fait des choses selon la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors la question que nous sommes posées, alors pourquoi le fait d'être un choix de Dieu, c'est une mission? Ou c'est une mission? Le Seigneur m'a choisi, le Seigneur m'a sauvé. Aujourd'hui je suis devenu enfant de Dieu. J'ai vu une vie de sainteté, je suis chrétien. Mais pourquoi le fait d'être choisi ou d'être sauvé par Dieu, automatiquement, je suis devenu un missionnaire? Nous devons le savoir parce que lorsque Dieu nous choisit, il ne nous amène pas directement au ciel, à l'exception de quelques cas, mais il nous laisse vivre encore sur la terre, cette fois-ci, non pour faire notre propre volonté, mais pour faire sa volonté. Dieu nous choisit, il nous a sauvés, nous ne sommes pas montés directement au ciel. Il nous a laissé vivre encore ici sur la terre, mais une fois sauvés, choisis par Dieu, pendant que nous sommes en train de vivre sur la terre, nous ne vivons plus selon notre propre volonté, mais nous vivons pour la volonté de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a choisis. Alors, de celui qui nous a choisis, il nous laisse vivre sur la terre pour faire la mission. Vous allez voir qu'une personne qui menait une vie de désordre, une fois sauvée, il change sa vie. Il vivait autrefois selon sa volonté, mais une fois sauvé, il ne vit plus, la personne ne vit plus selon sa propre volonté, mais il vit selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à son épître aux Galates, Galates chapitre 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, si on peut lire, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » On pouvait demander à l'apôtre Paul, mais comment on te voit encore physiquement vivre? Comment tu peux nous dire, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. Mais physiquement, c'est toi. Alors, qui d'autre qui vit à ta à place, si réellement ce n'est pas toi? Et la réponse, l'apôtre Paul pouvait nous dire, je ne vis plus selon ma volonté, mais je vis maintenant selon la volonté de celui qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Je ne vis plus selon ma propre volonté, mais je vis selon la volonté de celui qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Pardon. Celui qui a été choisi par Dieu ne vit plus selon sa propre volonté, mais il vit selon la volonté de celui qui l'a choisi, c'est Jésus-Christ. Si tu as réellement été sauvé, choisi par Dieu, tu ne peux plus commencer à vivre ou à mener ta vie selon toi, mais selon la volonté de Dieu. Lorsque Dieu choisit une personne, il ne faut pas plus regarder son apparence extérieure. Ça peut ou ne pas changer. Mais il faut regarder plutôt son intérieur, car une fois été sauvé par Dieu, l'intérieur change. Le Seigneur choisit une personne. Une personne peut te dire, je suis sauvé. Dieu m'a sauvé. Oui, c'est bien. Au départ, il ne faut pas plus regarder son apparence extérieure, car ça peut changer ou ne pas changer. Mais il faut regarder plus son intérieur, car une fois sauvé, l'intérieur change automatiquement. Une personne, je me souviens encore, quelques années en arrière, il y a un jour où le pasteur me disait, mais toi, depuis que j'étais connu, jusqu'à présent, il parlait de mon apparence extérieure en disant que tu y es toujours comme ça. Tu y es toujours comme ça. Là, il parlait de l'apparence extérieure. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a quelques jours, en arrière, quelques jours de cette semaine, il y a des mamans qui m'avaient dit, frère de peau, balle, et ma bounze, hein. Je me dis, ah, et comment changer? Donc, ne regarde pas d'abord son apparence extérieure. Si ça ne change pas aujourd'hui, demain ça peut changer. Mais toi, regarde plus son intérieur. Quand il a été sauvé par Dieu, son intérieur a changé. Si tu regardes mon apparence extérieure, tu risques de te tromper. Mais si tu regardes mon intérieur, tu sauras que Jésus-Christ a transformé ma vie. Tu sauras que Jésus-Christ est passé par moi. Tu sauras que Jésus-Christ a changé ma façon de voir les choses. Je ne vois plus les choses que selon moi-même, mais je vois des choses aujourd'hui dans ma vie selon la vision de celui qui m'a sauvé, selon la vision de Jésus-Christ. La question que chacun de nous peut se poser ce matin, étant que missionnaire de Jésus-Christ, sur le champ de la mission sur la terre, tu accomplis la volonté de Dieu ou tu fais ta propre volonté? Nous sommes arrivés à la fin de l'année, chacun de nous peut faire le bilan de cette année. Comment tu t'es comporté cette année? Tu faisais que ta volonté ou tu faisais la volonté du Seigneur? Sache-le que tu es un missionnaire ici sur la terre. Dieu t'a sauvé pour ne plus vivre selon ta volonté, mais pour vivre selon sa volonté. Comment a été ta vie durant tout au long de cette année? Tu étais là en train de faire des actions qui ne donnaient pas gloire au Seigneur. Ce matin, le Seigneur te dit, reviens auprès de lui pour faire sa volonté. En faisant l'analyse de notre texte de 1 Samuel, chapitre 13 que nous venons de lire, nous avons tiré quelques leçons que nous allons partager ce matin. La Bible, le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle de Samuel, le roi, il était roi. Le Seigneur l'avait choisi pour devenir roi, pour régner sur son peuple. Il était choisi par Dieu pour accomplir une mission, pour conduire le peuple du Seigneur. Et pendant l'exercice de sa mission, à la tête du peuple, il était arrivé un certain jour où il était ensemble avec son peuple à Gilgal pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Et ils étaient là avec le peuple. Pendant qu'ils attendaient Samuel qui devait venir, parce que c'est lui qui avait l'autorité ou l'attribution d'offrir les sacrifices à l'Éternel, le roi était là. Il était là avec son peuple. Et pendant qu'ils attendaient Samuel, de l'autre côté, la Bible nous dit, les Philistins aussi, ils étaient regroupés pour venir combattre Israël. Et ils attendaient que Samuel puisse venir offrir les sacrifices. Le temps était fixé pour 7 jours. Mais pendant qu'ils attendaient 7 jours, le 7e jour était arrivé. Samuel n'arrivait pas toujours. Samuel ne se présentait pas toujours. Et tant que le choix de Dieu, il devait observer le commandement de l'Éternel. Tu sais ce que le Seigneur, Saoul savait ce que le Seigneur avait dit étant que roi. Quelle mission que le Seigneur l'avait donnée. Il devait observer le commandement ou faire la volonté du Seigneur. Mais nous le voyons sur le terrain. Saoul avait fait des choses contrairement par rapport à ce que le Seigneur attendait de lui. Mais Saoul savait que, pas autrement que l'Éternel attendait de lui, il devait faire que la volonté de Dieu ou agir selon la volonté de Dieu. Mais Saoul avait fait le contraire. Pendant qu'ils attendaient Samuel pour offrir le holocauste, ils attendaient 7 jours. Le 7e jour était là. Comme Samuel n'arrivait pas, le peuple qui était autour de Samuel s'est dispersé. Parce que le peuple voyait le danger qui était devant eux. Les Philistins sont là. Ils sont venus nous combattre. Nous devons offrir les sacrifices. Oui, c'est bien. Mais Samuel n'arrive pas. Saoul est là, oui, mais nous sommes en train de courir un danger. Tant que ça, Samuel n'arrive pas, si les Philistins se présentent devant de nous, nous ne savons pas comment se défendre face à ce peuple, car la Bible nous dit ils étaient un peuple nombreux. Ils étaient là, et le peuple commençait à se disperser, commençait à se retirer l'un après l'autre. Et pendant ce temps, Saoul était là, en train d'attendre le prophète Samuel. Samuel tardait toujours. Et pendant que le peuple s'est dispersé, la Bible nous dit, pendant que le peuple s'est dispersé, Saoul avait pris la décision, il avait pris la décision de faire les choses selon sa volonté, non selon la volonté de Dieu. Et nous voyons, Saoul avait demandé l'Holocauste et Saoul avait offert l'Holocauste. Saoul avait fait des choses, non, selon la volonté de Dieu. Et lorsque le prophète Samuel s'est présenté dans le verset 11, il demande à Saoul, « Qu'as-tu fait ?» Saoul lui répondit, « Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient ensemble à Michmash, je me suis dit, là il faisait sa propre volonté, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel une autre chose encore. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi à naissance et tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé les commandes. Tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Autrement dit, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. À cause de l'abandon du peuple et des ennemis qui étaient proches, Saoul s'est laissé influencer pour faire sa propre volonté. Le peuple m'a abandonné, les ennemis sont là. Saoul s'est influencé pour faire sa volonté. Et ce matin, je vais dire à une personne, lorsque Dieu t'a choisi pour accomplir sa mission, ne te laisse pas être influencé face à une épreuve, car le Dieu qui t'a choisi est capable de te secourir. Le Seigneur t'a choisi pour accomplir une mission. Oui, c'est bien, l'épreuve se présente devant de toi. Ne te laisse pas être influencé. Fais ce que le Seigneur te demande de faire dans sa volonté, même si tu te retrouves devant une épreuve. Ne te laisse pas être influencé par ta propre volonté. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Fais ce que le Seigneur t'avait demandé ou le Seigneur t'avait recommandé de faire. Car si tu fais des choses contrairement à la volonté de Dieu, tu es en train de courir un risque. Dieu qui t'a envoyé, il a les moyens pour te secourir. Dieu qui t'a dit de faire une chose, il a, même si tu te retrouves devant une épreuve, il a les moyens pour te secourir. Aujourd'hui, nous le voyons, plusieurs enfants de Dieu, à cause des épreuves que nous traversons pendant que nous sommes en train de faire la mission que le Seigneur nous a confiée à un niveau ou à un autre, plusieurs changent leur façon de voir des choses à cause des épreuves, plusieurs abandonnent, plusieurs arrivent au niveau de faire leur propre volonté en disant, parce que ça a trop traîné, le travail a trop traîné, je peux aller toucher à l'occultisme pour avoir du travail. Sache-le que tu es un missionnaire, tu dois faire la volonté de Dieu. Si le travail traîne, sache-le que le Seigneur qui t'a confié la mission, si le Seigneur voulait te laisser chômeur, si le Seigneur, je peux dire, voulait te laisser chômeur sans travail, pendant qu'il t'avait sauvé, il pouvait te prendre. Comme il t'a laissé sur la terre, il sait que c'est qu'il a prévu pour toi. C'est toi qui vois le chômage, mais c'est Dieu qui t'a laissé sur la terre pour faire sa volonté, pour accomplir sa mission. Il sait ce qu'il a préservé pour toi. Alors ne vois pas les choses selon ta volonté, vois les choses selon la vision que le Seigneur t'a commandée pour ne pas changer la façon de faire des choses ici sur la terre. Ils sont prêts à abandonner parce que ça ne vient pas. Parce que ça n'arrive pas. Et pourtant que nous sommes appelés ou censés à faire la volonté de Dieu face à la mission qu'il devait accomplir. Shadrach, Meshach et Abednego ne s'est pas laissé influencer face à l'épreuve de la fournaise ardente. Car ils croyaient que le Dieu qu'ils servaient était capable de les secourir. Face à l'épreuve de la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego, ils savaient que nous, tels que nous sommes là, nous sommes une race à part. Nous ne pouvons pas servir un autre Dieu. Notre Dieu nous a dit dans sa volonté, nous ne pouvons pas servir un autre Dieu. Alors voilà pourquoi on ne peut pas se laisser influencer face à cette épreuve qui se présente au devant de nous. Le roi avait fait une statue et tout le peuple devait se prosterner devant la statue. Mais comme il savait que nous sommes une race à part, Nous appartenons à un Dieu puissant. Nous ne pouvons pas faire des choses contrairement à sa volonté. Et les gens qui étaient autour du roi étaient partis dire au roi, voilà les gens que tu as donné l'intendance de Babylone. Ils sont en train de boycotter l'ordre que tu as mis. Et nous voyons le roi était furieux. Il avait convoqué les trois amis de Daniel. Et lorsque les trois amis de Daniel se retrouvaient devant le roi, nous sommes dans Daniel chapitre 3, le verset 4. Pardon, nous allons relire le verset 14 jusqu'au verset 25. Daniel chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 25. Le roi avait convoqué les amis de Daniel. Il était furieux de voir qu'il y a des gens qui étaient autour de lui, que lui-même avait offert, il avait donné les services qui ne respectaient pas sa parole. Et le Daniel chapitre 3, le verset 14, la Bible nous dit, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, il parlait à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible nous dit, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce qu'à propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Nous savons bien, nous sommes une race à part. Comment servir tes dieux? Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous attendez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la chambique, du spansalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments que vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorerez pas, vous serez jeté à l'instant même, pas demain, pas après une heure, mais à l'instant même, au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Écoutez la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Quoi? Face à une épreuve, le roi dit, maintenant même, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Les amis de Daniel, non, nous ne laisserons pas d'être influencés. Nous sommes une race à part. Nous devons accomplir la mission de notre Dieu. Et le verset 17, la Bible nous dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Vous voyez, l'épreuve augmente de niveau. Au départ, c'était vous serez jetés maintenant même. Mais vous tenez toujours en disant nous n'allons pas observer ce que tu nous demandes. Maintenant, le roi commande ou ordonne qu'on puisse échauffer 7 fois la fournaise. Puis il commanda à quelques-uns, les plus vigoureux soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec les caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, parce que vous ne voulez pas vous laisser influencer, l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle du fils de Dieu. » Parce qu'il n'avait pas voulu se laisser être influencé par l'épreuve, nous voyons les dieux qui les avaient choisis étaient venus en personne pour leur secourir. Il était descendu en personne pour leur sauver. Celui qui ne se laisse pas être influencé face à une épreuve pour faire la volonté de Dieu, quelle que soit la forme que son épreuve peut prendre, Dieu ne lui laissera jamais. Quelle que soit la forme que ta situation peut prendre, Dieu ne te laissera jamais. Parce que tu n'as pas voulu céder, parce que tu n'as pas voulu faire la volonté qui est contrairement à celui qui t'a sauvé, Dieu ne te laissera jamais. C'est la nation, c'est la notion qui avait échappé à Saoul, qui avait échappé à Saoul, les dieux qu'il avait choisi, qu'il avait établi, était capable de lui délivrer face aux Philistins qui étaient venus le combattre, face à la situation qu'il était en train de traverser. Les dieux là étaient capables de lui défendre, mais comme il ignorait cette notion, il s'est laissé influencer. Voilà pourquoi nous voyons comment ça coûtait à sa vie, ça coûtait à la vie de Saoul, parce qu'il voyait des choses selon ce qui s'est passé autour de lui. Je vais dire à une personne ce matin, ne vois pas des choses dans ta vie par rapport à ce qui se passe autour de toi. Ne vois pas des choses dans ta vie par rapport à ce qui se passe autour de toi, car ce que Dieu te réserve n'est pas égal à ce que tu es en train de vivre maintenant. Ce que Dieu te réserve n'est pas égal à ce que tu es en train de vivre maintenant. Voilà pourquoi ne vois pas des choses autour de toi dans ta vie par rapport à ce qui est autour de toi. Car si tu regardes des choses par rapport à ce qui est autour de toi, tu risques de faire des choses qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Tu risques de changer la façon de faire des choses et ça va coûter à ta vie. Mais si tu restes ferme, tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur ne te laissera pas ainsi. Tu vivras le projet que le Seigneur a prévu pour toi. Peut-être tu te dis l'année est déjà finie. L'année est déjà finie. Tu regardes comment a été l'année dans ta vie et tu te rends compte que rien n'a marché. Rien n'a bougé. On avait dit l'année de l'œuvre de l'Éternel. Tu as servi l'année, tu t'es donné pour servir l'Éternel. Mais tu te rends compte apparemment, rien n'a changé. Laisse-moi te dire, continue de faire la volonté de Dieu. Ce que tu vois aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Le Seigneur, ce que le Seigneur t'a réservé n'est pas égal à ce que tu es en train de faire, à ce que tu es en train de voir maintenant. Faisons la volonté de Dieu, ou fais la volonté de Dieu dans ta vie, et tu vivras ce que le Seigneur t'a réservé. Là où Saul voyait que les Philistins et le peuple qui s'est dispersé autour de lui, Dieu voyait comment je peux fermer son règne. Saul, lui, voyait que comment le peuple qui était autour de lui était en train de se retirer petit à petit. Comment l'ennemi était au devant de lui pour venir lui combattre. Lui voyait seulement ça. Mais Dieu, par sa façon de faire des choses, par sa bonté, par son amour, il voyait comment je vais affermir les règnes de Saul. Ne vois pas des choses dans ta vie par rapport à ce qui se passe autour de toi. Fais la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur t'a réservé n'est pas égal à ce que tu vois. Frères et sœurs, vous savez qu'en dehors de l'influence du peuple, que le Philistin, du peuple et le Philistin, Saoul n'avait pas consulté aussi Dieu face à l'épreuve qui était devant de lui. Hormis le peuple qui est en train de se retirer, l'épreuve du peuple qui s'est retiré petit à petit. Nous voyons de l'autre côté Saoul et le Philistin qui étaient au devant de lui. Saoul n'avait pas consulté l'Éternel avant d'agir. Oui, ils avaient fixé 7 jours. Samuel ne se présentait pas. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur avait des moyens pour secourir Saoul. Si Saoul avait pris la décision de consulter le Seigneur qui était en train de former un projet, comment affermir son règne, n'avait pas manqué de moyens pour venir lui secourir. Mais parce qu'il n'avait pas consulté le Seigneur, ça coûtait cher dans sa vie. Face à une épreuve, lorsqu'on ne consulte pas Dieu pour agir selon notre propre volonté, on court un grand risque. Face à une épreuve, tu es en train de traverser une situation compliquée, difficile. Si tu prends la décision, parce que Dieu t'a sauvé, Dieu t'a choisi pour accomplir une mission, tu ne peux pas continuer à vivre selon ta propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Lorsque tu es en train de connaître des moments compliqués, difficiles, ne cherche pas de prendre des décisions selon toi, selon ta volonté. Non, il faut chercher à consulter le Seigneur. Le Seigneur a tous les moyens pour te secourir. Le Seigneur a tous les moyens pour te défendre. Le Seigneur a tous les moyens pour te délivrer face à cette épreuve que tu es en train de traverser. Mais si tu prends la résolution de décider selon ta propre volonté, tu risques de courir un grand risque. Par le fait de faire sa volonté, sa propre volonté, et non de celle de celui qui avait choisi, Saoul ne savait pas qu'il était en train de courir un grand risque. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu dans ta vie pour faire ta propre volonté, sache-le que tu es en train de courir un grand risque. Ça peut coûter à ta vie. Ça peut coûter à ta vie. Fais la volonté de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne de faire sa volonté, de marcher selon la volonté du Seigneur. Si tu veux marcher selon ta propre volonté, oui, c'est bien, je suis encore jeune, je peux faire ceci, j'ai mes moyens, j'ai mon argent, je peux me déplacer, aller partout où je veux, oui, c'est bien. Mais si tu fais des choses selon ta propre volonté, sache-le que tu es en train de courir un grand risque. Ça peut coûter à ta vie. Le roi Josaphat, qui n'avait pas voulu courir un grand risque en cherchant la volonté de Dieu, lorsque les ennemis étaient venus le combattre, parce que le roi Josaphat, lui aussi, lorsqu'il était en train de régner, c'est Juda, à cette époque-là, Israël est déjà divisé, le roi Josaphat régnait sur Juda. Lui aussi, il avait connu une épreuve où les ennemis étaient venus le combattre. Nous voyons, face à cette épreuve, le roi Josaphat n'avait pas voulu faire des choses selon sa volonté. Et ce roi était parti consulter le Seigneur pour chercher de connaître, de savoir Quelle est la volonté de Dieu face à la situation qui se présente dans ma vie, face à ce combat qui se présente devant moi? Et dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset, nous allons lire le verset 1, verset 1 jusqu'au verset 3, nous allons sauter pour prendre le verset 13 jusqu'au verset 17, 2 Chroniques 20, la Bible nous dit, après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. C'est la même chose qui était arrivée avec Saoul, parce que lui aussi, le fils était venu faire la guerre contre lui avec son peuple. Le verset 2, on vient informer à Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Absalom, Tamar, qui est à Guédi. Dans sa frayeur, tout comme lorsque Saoul avait connu cette frayeur, mais lui, sa frayeur l'avait amené de faire sa propre volonté. Mais pour le roi Josaphat, lorsque on l'avait amené l'information, disant voilà, les ennemis sont venus pour nous combattre, dans sa frayeur, la Bible nous dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Pendant qu'il cherchait l'Éternel, le verset 13, pendant qu'il cherchait de savoir la volonté de Dieu, la Bible nous dit dans le verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Éternel, lorsqu'on le cherche, il ne reste pas silencieux. Il se prononce toujours pour nous faire savoir quelle est sa volonté face à la situation que nous sommes en train de traverser. Alors l'Éternel, la Bible nous dit dans le verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaïr, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda. Là, l'Éternel est en train de parler. Et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, parce qu'il cherchait de connaître la volonté de Dieu face à la situation qu'il est en train de traverser. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéréel. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Là où Saoul a voulu faire sa propre volonté, nous voyons le roi Josaphat était parti consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, ce n'est pas vous qui allez combattre. Moi-même, je veux combattre pour vous. Vous allez juste vous présenter. Vous allez juste vous présenter. Et moi, je vais prendre tout en charge. Et moi, je vais assurer votre protection. Je vais assurer votre sécurité. Oui, l'épreuve est là. Mais quand vous allez décider de me consulter par ma volonté, toi, tu ne vas rien faire. C'est moi-même qui va jouer le rôle. Frères et sœurs, pensez-vous que si le roi Josaphat n'avait pas consulté l'Éternel et qu'il avait demandé à son peuple d'aller combattre les ennemis, Josaphat voulait remporter la bataille? Non. Parce que selon la volonté de Dieu, vous n'allez rien faire. C'est moi qui va combattre à votre place. C'est moi qui va agir. C'est moi qui vais agir. C'est moi qui vais combattre à votre place. Donc ce n'est pas vous. Donc si le roi Josaphat n'avait pas pris la résolution d'aller chercher, de connaître la volonté de Dieu, il voulait fournir les efforts qui voulaient coûter aussi cher à lui et à son peuple. Là où le Seigneur attendait tout simplement que le peuple puisse se tenir devant eux, devant les ennemis, pour que lui-même puisse les défendre. Ça nous arrive dans la vie de fournir des efforts dans des situations au lieu de chercher de connaître d'abord quelle est la volonté du Seigneur. On fournit beaucoup d'efforts, on prie, on cherche le Seigneur, on gèle même. Pendant que le Seigneur t'attend seulement, allez lui consulter. Il va te dire, tel que tu es là, va dans tel endroit, fais ceci, et tu verras comment moi-même je vais prendre tout en charge. Et moi-même je vais baliser le chemin. Mais plusieurs au milieu de nous, par manque de chercher la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, nous faisons des choses selon notre propre volonté. Et ça nous prend les énergies, ça nous prend du temps. Tu es en train de tourner en rond. Le Seigneur t'attend seulement de se tenir debout, de se tenir devant tes ennemis ou devant la situation que tu es en train de traverser. De te tenir seulement debout. Lui-même viendra prendre en charge, te défendre et de te donner la victoire. Nous avons l'intérêt de chercher toujours la volonté de Dieu pendant que nous sommes ici sur la terre. Il y a des choses qui ne marchent pas, des relations qui ne marchent pas. Tu commences une relation, ça ne marche pas. Tu recommences une autre relation, tu ne vois pas que ça ne marche pas. Laisse d'abord, va consulter le Seigneur. Laisse d'abord, va chercher la volonté du Seigneur. Et tu verras que le Seigneur te dira ce que tu vas faire. Et une fois que tu vas faire ce que le Seigneur te demande par sa volonté, tout marchera dans ta vie. Tout marchera dans ta vie. Ne te bats pas seul. Cherchons la volonté du Seigneur. Cherchons de comprendre quelle est la volonté du Seigneur dans ce que je suis en train de faire. Et nous n'allons pas fournir beaucoup d'efforts. Le Seigneur nous prendra en charge. Apprends à faire la volonté. Apprends à faire les choses dans ta vie selon la volonté de Dieu pour ne pas courir un grand risque. C'est ça que le Seigneur voulait dire à son peuple. Levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Tu as besoin de chercher la volonté du Seigneur. Tu as besoin que le Seigneur puisse te révéler sa volonté afin que tu ne puisses pas continuer à tâtonner dans ta vie.